Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, suite de notre épisode sur l'histoire du football en Australie, le football ballon rond, non pas le football australien, on est donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des vagues d'immigration arrivent en Australie depuis le sud de l'Europe et c'est à cette époque que le football commence à véritablement se populariser en Australie. On commence tout de suite cette deuxième partie avec, comme d'habitude, l'historien Romain Fati pour nous accompagner. Et alors donc, on a à cette période toute une ébullition et tout un tas de nouveaux clubs de foot qui apparaissent à travers l'Australie et dans les grandes villes, bien sûr. La particularité, c'est que souvent, ces clubs, ils représentent une communauté. On a un club d'Italiens, de Grecs, de Serbes, de Polonais, etc., etc. Et derrière tout ça, il y a un endroit, mais sûrement d'autres, mais un endroit en particulier qui va vraiment servir à la fois à créer, à se trouver des partenaires pour créer des clubs et aussi quelque part à trouver des nouveaux talents, des nouveaux joueurs. C'est le centre d'accueil des migrants de Bonegilla. Bonegilla, c'est un endroit qui se trouve à la frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria. Et c'est un endroit qui a joué un peu un rôle clé dans cette immigration post-Seconde Guerre mondiale. Romain, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et avant de nous donner plus de détails, est-ce que c'est exagéré de dire que d'une certaine manière, c'est un peu l'équivalent australien de Ellis Island pour les États-Unis?
Disons que la métaphore visuellement est assez valide. Historiquement, peut-être un peu moins, parce que Ellis Island, pendant assez longtemps, on pouvait y aller de son propre choix. Or, l'Australie, elle, contrôle ses frontières bien plus tôt que les États-Unis d'Amérique. Les restrictions d'immigration aux États-Unis, elles commencent à arriver, je crois, dans les années 20, et elles sont bien évidemment de plus en plus strictes. Mais l'Australie, même après la Deuxième Guerre mondiale, si vous n'y êtes pas invité, vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc de ce point de vue-là, Ellis Island est un peu plus inclusive. Et par ailleurs, Ellis Island, c'est un simple lieu de traitement. Vous rentrez ou vous ne rentrez pas. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous n'êtes pas malade? Et puis bon, si vous avez de la famille ou une communauté, c'est elle qui s'occupera de vous. Le modèle australien est différent. On est dans un modèle d'assimilation où en fait les camps comme Bonegilla sont des camps à la fois de réception et de... peut-être pas d'acculturation, mais de familiarisation. C'est-à-dire que on va vous proposer d'apprendre ou de réapprendre un travail. On va vous proposer d'apprendre, d'avoir des cours d'anglais. Donc, si vous voulez, c'est pas vous êtes arrivé au port, enfin, en l'occurrence Ellis Island, et puis vous avez votre vos papiers et bonne journée, circulez, il y a rien à voir. Là, c'est totalement différent. L'Australie a un réel projet pour utiliser ces migrants. C'est-à-dire que venez pour travailler en Australie. C'est un grand moment d'explosion industrielle, ce qui correspond à l'équivalent des 30 Glorieuses en France. Et l'Australie a un énorme besoin de migrants, pas tellement pour l'aspect défense et sécuritaire, mais c'est celui qui parle aux Australiens, donc c'est celui que le gouvernement utilise. La réelle raison, c'est qu'il y a besoin de main-d'œuvre. C'est une économie qui est en pleine croissance et il faut importer des bras. Et donc ces bras, on les envoie là où il y en a besoin, et surtout, au début, ils sont accueillis pour être formés aux us et coutumes australiens. Et Bonegilla, qui est dans le Victoria, il y a un musée, un centre d'interprétation aujourd'hui, n'est pas le seul camp. Il y a quand même une vingtaine de camps en Australie qui servent des rôles plus ou moins similaires. Les camps de réception et de... Enfin, le camp, c'est un mot très négatif. On pourrait peut-être dire village à la place, si vous voulez, mais c'est dans des baraquements, évidemment. Mais souvent, il y a des endroits où vous pouvez faire du sport, il y a l'école. Enfin voilà, c'est vraiment un mini-village qui est créé. En Australie méridionale, il y a celui de Woodside. En Nouvelle-Galles du Sud, il y a Cora et Parks. Enfin, je pourrais vous en nommer une une bonne quinzaine comme ça, mais Bonegilla était de loin le plus important et celui qui a laissé la trace peut-être la plus importante dans la société australienne, parce que c'est celui qui a de loin accueilli le plus de personnes. Donc encore aujourd'hui, si vous parlez à des Australiens d'origine peut-être italienne, serbe, grecque, vous trouverez probablement dans leur parents ou grands-parents des personnes qui sont passées par ce camp au cours des années 50 et 60.
Je rajoute une petite question qui nous éloigne un petit peu du football, mais on évoquait ce camp de Bonegilla. Vous avez cité celui de Parks et de Cowra aussi. Comment se fait-il que on a tous ces immigrés qui, dans les années 50, arrivent par les ports des grandes villes, dont les bras vont être nécessaires pour une économie qui est essentiellement concentrée dans ces grandes villes, qu'on les envoie au préalable dans des centres qui se trouvent au beau milieu de nulle part?
C'est une très très bonne question, c'est une question très difficile parce que déjà il y a plusieurs choses. Il y a le contrôle que le gouvernement voulait exercer sur ces populations. Si vous les accueillez en ville, ces populations vont disparaître assez rapidement. Elles vont se retrouver dans leur communauté, elles vont aller trouver un travail de leur propre chef. Or, le gouvernement essaye d'organiser l'économie à cette époque-là. Alors, c'est pas du dirigisme, hein. C'est simplement qu'il y a des industries prioritaires, qu'il y a des grands projets également, celui des montagnes de la Snowy, par exemple. Ce sont tout un système de barrages hydrauliques. Où là, vous avez des dizaines de milliers de migrants qui travaillent. Et par ailleurs, parce que vous n'avez peut-être pas accès au travail que vous aviez avant. Par exemple, vous pouviez être docteur en Hongrie. L'Australie de l'époque ne reconnaît pas votre diplôme de docteur. Et donc, vous vous retrouvez à apprendre, je sais pas moi, Travemünster Fraser, par exemple, dans une usine. Ces usines, elles sont généralement en périphérie, en périurbain, plutôt qu'au cœur de centre-ville. Et donc, vous envoyez déjà ces populations dans des espaces où vous pouvez les contenir ensemble, les contrôler et avoir un peu plus comment dirais-je, de contrôle sur là où elles vont travailler. Donc, effectivement, vous avez totalement raison. Ça peut paraître être un paradoxe, mais en fait, c'est un moyen de redistribuer la main-d'œuvre là où les grandes industries peuvent en avoir besoin. Et là, en l'occurrence, on les envoie dans des espaces ruraux, voire semi-ruraux, alors qu'ils ne sont pas destinés à y rester. Et en fait, souvent, hein, ce qui se passe, c'est que ces migrants vont passer quelques mois, parfois un an ou un peu plus dans ces villages d'accueil, avant d'être redistribués, dans des villes du pays, dans tout le pays d'ailleurs.
Ok. Alors donc tous ces nouveaux immigrés, enfin pas tous, mais en tout cas une bonne partie de ces nouveaux immigrés d'après la Seconde Guerre mondiale, je disais que pour beaucoup d'entre eux, ils partagent le fait de venir notamment du sud de l'Europe, donc les pays de l'ex-Yougoslavie, l'Italie, la Grèce, d'ailleurs aussi le sud de la Méditerranée pour certains, des Égyptiens, des Turcs, etc. Enfin le Turc n'est pas au sud, enfin bref. Et il y a un terme d'argot. Qui est passé dans le langage courant aujourd'hui, qui est utilisé pour désigner toutes ces personnes qui, en gros, sont un peu plus bronzées que l'Irlandais moyen, c'est les Wog. Et les Wog, ils ont pour point commun, pour beaucoup d'entre eux, d'aimer beaucoup le football. Et on va parler à l'époque de Wogball pour parler de ce sport qui est un petit peu dénigré par les Australiens du cru, si j'ose dire, qui préfèrent le rugby, le footy ou encore le cricket. Alors avant d'avancer plus loin, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu ce mot, les WOG, est-ce que vous confirmez que ça désigne à peu près les personnes dont j'ai parlé à l'instant? Et comment est-ce qu'on pourrait le traduire? J'ai essayé par le passé de le faire, et moi le terme le plus approchant que j'ai pu trouver en français, c'était basané. Qu'est-ce que vous pensez de ma traduction et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tout ça?
Alors, dans l'ensemble, ça fonctionne. Le mot wog en anglais britannique est très clairement raciste. Le mot wog en anglais australien est péjoratif, mais certaines communautés aujourd'hui en sont fières. Les Italiens, les Grecs. Donc, en fait, c'est une insulte qui a été retournée contre les personnes qui insultent et qui maintenant a été appropriée ou réappropriée par certaines communautés. Mais dans le contexte de l'époque, des années 50-60, en tout 60, C'est effectivement basané, métèque et des mots que je ne souhaite pas prononcer sur, par exemple, le nord méditerranéen. Voilà, les insultes de cette époque-là. Donc, à l'époque, le mot wog n'est pas du tout positif. C'est plutôt une insulte. Et aujourd'hui, c'est assez différent. Ça reste une insulte, sauf si vous vous l'appropriez. Donc, le mot est le même. La connotation qui a été associée a évolué à travers le temps. Mais ce que ça dit dans le contexte des années 50-60, c'est que les Australiens blancs de l'Australie coloniale d'avant identifient le football comme un sport d'immigrants. Et ça, c'était déjà le cas au siècle précédent, au 19e siècle, parce que si vous étiez né en Australie, vous pratiquiez le cricket, le rugby, la chasse ou alors les courses de chevaux. Mais le football était déjà vu comme un sport un peu populaire, même des Anglais migrants qui venaient d'arriver et qui étaient nés en Angleterre et qui n'étaient pas encore intégrés à l'Australie. Sauf que eux, étant blancs, ça passait et puis personne n'en parlait vu que c'était pas un grand sport. Mais avec cette masse d'immigrés qui arrivent pour peupler le pays et surtout pour lui donner des bras et qui a porté la croissance australienne dans les années fin 40, 50, 60 et même 70, eh bien le jeu, le football, une importance qui ne fait pas plaisir à tout le monde parce que il est de plus en plus joué et surtout il y a l'aspect que vous avez rappelé où souvent les équipes de football en Australie vont être communautaires. Vous allez avoir des clubs de foot exclusivement italiens, grecs, serbes, croates, vous voyez des polonais, beaucoup de clubs de foot polonais. Et donc pour certains Australiens, le fait de jouer au football est associé à votre origine, et cette origine-là va être celle de la migration du continent européen vers l'Australie. Mais le mot wog a évolué. Il y a un film qui est pas très bon, mais qui s'appelle Wog Boy, où justement le personnage est d'origine italienne de mémoire, et donc vous avez tous les stéréotypes de l'italien qui sont développés et qu'on peut avoir aussi à l'esprit en France, hein. Mais il y a aussi une certaine fierté d'être australien d'origine italienne ou d'origine grecque ou d'origine polonaise. Voilà. Donc ils voient ça comme un plus parce que c'est le sport, leur identité, leur communauté. Mais c'est vrai que du point de vue de la classe australienne plutôt blanche, ça demeure un sport pour les étrangers ou les nouveaux arrivants.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour la suite de cet épisode consacré à l'histoire de l'Australie. On s'intéressera dans le suivant sur, eh bien, l'image négative qui a été véhiculée à travers le football, essentiellement parce que le football était rattaché à ceux qui y jouaient, essentiellement des immigrés de fraîche date. À très bientôt pour la suite.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/check your setup.